Bonjour et bienvenue à tous. Nous allons parler aujourd'hui de la régressivité, quelque chose qui cause des fortes émotions et qui est peut-être plus décisif pour la conception des instruments ou la mise en œuvre des instruments et que les économistes parfois nous les traitons un peu trop tard. Nous pensons beaucoup à l'efficience, ou l'efficacité. Mais en fait, les effets distributifs sont tout à fait décisifs pour la mise en œuvre des instruments. Ici, c'est des émeutes au Nigeria. Et quand on a essayé d'enlever les subventions à l'essence. Il y avait une trentaine de morts. J'y reviendrai. Mais tout d'abord, j'allais parler un peu de deux autres sources d'inégalités que, en effet, je crois que sont des inégalités plus importantes. D'abord, il y a les inégalités qui sont liées aux effets du changement climatique. Et deuxièmement, il y a les effets qui sont liés aux politiques d'allocation des droits. Il est paru il y a deux semaines maintenant, je crois, deux, trois semaines, un article dans la revue Nature, un article nouveau. Il y a une toute petite littérature, peut-être une dizaine d'articles qui définit une nouvelle littérature sur les dommages climatiques. C'est quelque chose de très important, évidemment. Nous luttons contre le changement climatique à cause des dommages possibles dans l'avenir, mais on n'en parle pas beaucoup. Et c'est évidemment parce qu'on les connaît mal. La plupart des dommages viendront dans l'avenir. Mais il y a une littérature qui essaie d'explorer maintenant les changements de température. Ce n'est pas tout à fait le même. Il y a des jours plus chauds, des semaines et des mois et des années même qui sont plus chaudes que des autres. Même ici, en Europe, il y a quelques années, nous avions une canicule qui a causé bien des morts, en fait. Mais c'est bien pire en Afrique et en Inde. Et il y a des collègues qui commencent à faire des études. J'ai un collègue qui étudie cela en Inde avec des très grosses banques de données sur la production en Inde, dans les différents secteurs. Il a démontré que dans les divers secteurs, pas seulement dans l'agriculture, on commençait au départ, on étudiait beaucoup l'agriculture. Mais maintenant, on a vu que dans l'industrie textile, dans l'industrie acier, dans les industries où on polie les diamants, n'importe quelle industrie, on voit que la production, l'efficacité, les profits, n'importe quelle mesure, ça baisse pendant les jours, les semaines ou les années qui sont plus chaudes. Parce qu'en Inde, il est déjà très chaud, une année normale. Et donc, les jours plus chauds, il y a tout simplement des effets physiologiques sur les ouvriers. Il y a plus d'ouvriers qui doivent rester à la maison parce qu'ils tombent malades. Et ceux qui viennent au boulot, ils n'arrivent pas à travailler aussi bien. Récemment, en fait, dans cet article, il y a quelques semaines, et des auteurs ont essayé de résumer un peu cette littérature et étudier au niveau macro les effets sur les taux de croissance du PIB. Ils ont démontré que l'effet de la température est en effet une fonction de cette forme ici. Et dans les pays qui sont froids, à la gauche, un changement de température est en effet un bénéfice. Mais une grande partie de l'humanité vit plutôt dans l'autre côté du diagramme et sont dans les pays chauds, notamment en Asie, en Afrique. Et là, les effets sont fortement négatifs. La courbe n'est pas tout à fait symétrique. Donc, ils ont calculé les pertes et démontré que les pertes... Ceci est un diagramme qui a été estimé. Donc, c'est assez compliqué, je ne vais pas entrer dans les détails. Mais ça démontrerait qu'en fait, avec le changement climatique, le monde va perdre beaucoup plus, c'est-à-dire que les dommages vont être beaucoup plus grands de ce qu'on avait pensé avant. Et en plus de cela, ils vont être déséquilibrés. On va vers un monde plus inégal, parce que c'est les pays chauds qui sont normalement les pays plus pauvres, qui vont plus perdre, et les effets chez nous seraient normalement beaucoup moins. Et en Suède, peut-être que c'est un avantage, en fait. Cela dit très légèrement, parce qu'évidemment, si on est dans un monde où les pauvres perdent beaucoup, ça a des effets sur le commerce international, sur les migrations, et tout ça. Ça peut bien avoir des effets négatifs aussi pour les pays dans le Nord. Donc, je crois que le changement climatique, ça aura des effets qui augmentent l'inégalité. Il y a aussi un effet l'égalité très important dans les négociations. D'ailleurs, c'est une tentation de faire des petits commentaires sur le COP que vous avez sûrement suivi tous. C'est étrange qu'on a parlé de 1,5 degré à la même fois que, en fait, on a un accord qui ne garantit pas du tout 2 degrés. Les buts de 1,5 degré, ça implique en fait une réduction chaque année de 5-6% des émissions. C'est presque impossible d'atteindre, surtout si on pense que l'Inde et l'Afrique vont augmenter leurs émissions pendant beaucoup d'années. Ça veut dire que nous, dans les pays riches, il faudrait réduire les émissions une dizaine de pourcents par année. Il faudrait des politiques très, très sévères. Et on n'a pas vu dans l'accord, il n'y a rien sur les prix de carbone, sur les mesures qui, en effet, garantissent une réduction des émissions. Donc, c'est contradictoire. Mais c'est peut-être, en fait... Je crois bien que ça peut être le meilleur qu'on a pu avoir. Je crois qu'en effet, une des causes des difficultés dans les négociations, c'est en effet que les pays sont très inégaux. Il y a des pays comme les États-Unis avec des émissions par tête qui sont 20 fois plus grandes que les émissions en Inde, par exemple. Si on faisait une allocation, si on considère l'Inde... Comme vous voyez ici, l'Inde et les États-Unis sont les deux grands pays qui sont les plus différents l'un de l'autre. La Chine est plutôt intermédiaire. Donc, si on prenait un monde qui consistait juste de l'Inde et des États-Unis, là, ici, il y a les émissions aujourd'hui, totales. Si on veut le réduire à la moitié, Il y a plusieurs manières, et deux manières très opposées. Un, c'est le système dit grand-père, c'est-à-dire des réductions pourcentuelles. Si on veut réduire le total à la moitié, on réduit tous les deux composants à la moitié. Bon, d'abord, ce n'est pas facile de réduire à la moitié les émissions aux États-Unis. C'est encore plus difficile en Inde parce qu'il y a cinq fois plus de personnes ici. Ils disent qu'ils émettent déjà très peu. Ils ont besoin de développer. Donc, c'est presque impossible. En Inde, on pense que c'est plutôt, on devait avoir une forme d'égalité par tête, des émissions par tête égaux, et ça donnerait ce qu'on a ici. Ça donne en fait une possibilité de croissance légère en Inde, mais ça donne une réduction de 80% aux États-Unis. Si ça est déjà très difficile, ça c'est encore pire. Et en plus, la différence a des significances énormes en quantité d'argent. Alors là, c'est le grandfathering, c'est l'Inde, c'est les États-Unis. Ça, c'est pas tête. Et à mon avis, c'est donc un peu à cause de cela que les négociations à Copenhague ont échoué, parce qu'on était très loin de l'un de l'autre. Les Indes et les Africains, ils disaient ça, et les États-Unis, ils disaient plutôt ça. Et donc, maintenant, on est peut-être à la recherche de quelque chose d'intermédiaire entre les deux. Et le processus du dernier COP, des dernières années, en fait, ça a été un processus plutôt bottom-up. C'est-à-dire qu'on a demandé à chaque pays de faire autant qu'il peut et de faire une espèce de plan national qu'on appelle les INDC, Intended Nationally Determined Contribution. C'est donc une contribution qui est décidée au niveau national. Et c'est seulement une prévision, mais donc, chaque pays a déposé ça. Et si on regarde, en fait, ils sont un peu vagues. Quelques-uns sont un peu vagues, mais on peut dire que c'est quand même quelque chose un peu intermédiaire entre ça et ça, au moins. Donc, ici, encore une fois, l'Inde a 6% des émissions aujourd'hui. Ils ont 18% de la population mondiale. Donc, si on n'avait pas tête, ils obtiendront 18% de l'espace émission, disons. Si on continue avec les réductions pourcentuelles, ils auraient toujours 6%. Et pour les États-Unis, c'est plus ou moins l'inverse. Et ces droits à l'émission, ils sont très valables, ou ils seront dans l'avenir. Donc, c'est beaucoup de l'argent sur la table et c'est peut-être une cause de que ça prend beaucoup de temps et que peut-être la négociation à Paris peut paraître comme si elle est peu concrète. Mais par contre, je crois qu'on verra dans quelques années que cet accord est très utile si on essaie de faire des réductions. On prendra plutôt les INDC comme point de départ dans l'avenir. Et ça réduira la distance entre les différentes parties de la négociation. Bon, maintenant je vais passer à l'inégalité et les taxes. Et moi je vais... Tout d'abord, c'est un sujet qui est souvent discuté. Quel est l'effet distributif des taxes sur les taxes environnementaux en général ou les taxes sur le carbone? Et bon, d'abord, la réponse, c'est que, comme disons les économistes, que c'est une question empirique, c'est-à-dire que ça dépend exactement de quelle taxe, et la conception et mise en œuvre du taxe et du pays. Il n'y a pas une réponse. Ce n'est pas toujours le cas qu'ils sont progressifs. ni qu'ils sont toujours régressifs. Donc, moi, je parlerai des taxes sur l'essence et un peu sur le diesel et un petit peu sur quelques autres, mais ça varie donc d'un fuel à autre. Et en fait, je dois dire que j'ai trouvé que c'est un argument dans le débat qui est très fort. Moi, j'ai parlé des taxes sur l'essence au moins une vingtaine d'années dans les différents pays. Et j'ai toujours trouvé que l'argument de mes adversaires qui était le plus efficace, c'était juste que ce n'est pas bien pour les pauvres, parce que ça me faisait hésiter, de quelque sorte. On ne veut pas être en contre des pauvres. Mais je me suis décidé d'étudier la chose à fond. Donc j'ai fait ce livre qui a je crois, 25 différents pays, études de cas. Et donc, pour l'essence, je crois que j'ai un bon fondement pour m'exprimer sur ce sujet. Je vais tout d'abord passer assez vite l'importance des taxes sur l'essence. Et d'abord, je vais vous montrer un modèle, que c'est un modèle que j'aime beaucoup, sur comment calculer les effets sur le climat des émissions. Il est librement accessible sur l'Internet, si vous voulez. Ça s'appelle Chalmers Climate Calculator. Vous pouvez le... Il y a un panneau pour les émissions. Les émissions mènent à un stock de carbone, et le stock de carbone, ça mène à un changement de température avec un délai. Il y a quelques paramètres qu'on peut changer ici. Ici, on met l'année. Ici, on met la réduction. Et donc, ici, c'est les émissions. On est ici. On a discuté beaucoup des changements climatiques. Ça n'a pas aidé. Ça continue à augmenter. Espérons que ça change maintenant. Mais bon. Donc, la concentration augmente et, en fait, augmente de plus en plus vite, exponentiellement. Et la température aussi, mais avec un délai très important. Qu'est-ce qu'il fait si on pouvait stabiliser les émissions? Et je dois vous rappeler, c'est très, très difficile de stabiliser. On a essayé on a discuté de ça une vingtaine d'années, rien n'est passé. Bon, peut-être, en fait, l'Europe et les États-Unis ont fait cela un peu les dernières quelques années. Mais ce n'est pas suffisant. Parce que stabiliser les émissions, ça veut dire que le stock continue à croître, linéairement au lieu d'exponentiellement. Et la température aussi. Donc on va de toute façon vers 4 degrés de réchauffement. Si on réduit avec 1%, ce n'est pas suffisant non plus. Ça mène aussi à peut-être 3 degrés de réchauffement. Il faut, en fait, réduire 2% par année, commençant hier, pour arriver à 2 degrés. Si on attend à 2020, il faut réduire plutôt 3% par année. Ça devient plus difficile. Si on voulait atteindre 1,5 degrés dans l'année 2020, si on ne fait rien jusqu'à l'année 2020, on se rend compte, on va atteindre 1,5. Ça implique des réductions par année de 6%. Et comme je disais, ça ne va pas arriver en Afrique, en Inde, ni en Chine. Donc ça implique plutôt des réductions de 10, 12, 15% aux États-Unis et en Europe. Et cela, c'est vraiment même pour un enthousiaste comme moi, c'est impensable, en fait. Et cela ne mène même pas tout à fait à 1,5, bon, mais ça s'approche d'un 1,5 degré. D'ailleurs, toutes ces courbes sont incertaines, parce que nous ne savons pas tout à fait la réponse de l'atmosphère aux émissions, tout cela est en plus compliqué. Mais j'ai utilisé les estimations moyennes. Bon. Donc, si on veut réduire les émissions, disons, si on retourne à quelque chose de plus limité, si on veut réduire les émissions 2% par année, et nous avons une croissance économique de 3%, quel est l'instrument le plus efficace? Bon, à mon avis, c'est un prix généralisé sur le carbone. Et pour le secteur transport, nous savons, nous connaissons une fonction de demande qui est assez simple. En fait, ça dépend du revenu et du prix. Et l'élasticité pour le revenu, c'est environ 1. L'élasticité pour le prix, c'est environ 0,7 au long terme, en fait. Mais, donc, tout ce qu'il faut faire, c'est augmenter les prix de l'essence 7% chaque année. Vous voyez ici, c'est les prix aux États-Unis. C'est un endroit agréable pour avoir une grande voiture. Et c'est les prix en Italie, en Europe, ils sont tous ici. Ici, c'est la consommation en Europe et aux États-Unis, par tête. C'est étrange, mais l'économie, ça marche. Quand les choses sont chères, on utilise moins. Et là, c'est des diagrammes, c'est le même diagramme, mais actualisé. L'autre, en fait, ça démontre le temps dont j'ai parlé de ce sujet. J'ai parlé de cela longtemps. Alors, quelle est la réaction à tout cela? Je vous vois tous un peu déprimés. Mais à mon avis, c'est la solution à un problème très important, global. On peut combiner la croissance économique avec éviter les pires des effets du changement climatique. C'est quand même bien, même si le prix de l'essence augmente. Parce qu'il faut se souvenir que le prix de l'essence, ça augmente, ça ne veut pas dire que le bien-être diminue. J'avais dans mon modèle une croissance économique de 3%, c'est-à-dire qu'on va chaque année être plus riche. Le fait que le prix de l'essence augmente, c'est une taxe. Ça remplace les autres taxes. Ça ne veut pas dire que le bien-être est moins. Donc, vous devez être heureux. Mais au lieu de ça, je sais que les réactions, en réalité, et déjà, j'ai pris des photos des différents pays, mais partout, les gens ne sont pas très contents. Et lui, surtout, je ne sais pas si vous savez qui c'est. Cheney. Le vrai pouvoir derrière Bush. En plus, il parlait de taxe essence, là. C'est pour ça. Bon. Et ici, là, c'est donc Nigeria. Là, on ne parle pas même pas de taxes. Nigeria, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un pays assez pauvre. Je dis assez parce que, en fait, parmi les pays africains, c'est un pays qui a beaucoup de pétrole. Ça pouvait paraître un peu moins pauvre que les autres, mais le sort de la plupart de la population vit dans une pauvreté tout à fait misérable. Et on utilise un tiers du budget pour subventionner l'essence. Un tiers. Alors, on s'imagine la liste, si on était ministre de Finances au Nigeria, la liste des choses qu'on voudrait subventionner, qu'on voudrait faire, devrait être longue. L'éducation, des systèmes d'eau et des routes même, la sécurité urbaine, le développement, les politiques de développement, la santé. Non, on utilise un tiers du budget pour subventionner l'essence. C'est bien pour qui ? Bon, évidemment, pour les gens qui ont des voitures, c'est-à-dire les riches. Les pauvres en Nigeria n'ont pas de voitures. Mais, et le président, il s'appelait Good Luck. Il est ex-président maintenant. Il a pas eu de bonne chance, en fait. Il était docteur en écologie. Et je crois que c'était une très bonne idée d'abolir les subventions à l'essence, mais il s'est heurté contre les lobbies très puissantes. Parce que malgré toutes les études que faisons des gens comme des économistes dans ce domaine, les taxes et les politiques fiscaux souvent ne sont pas décidées sur les critères de rationalité et efficacité. C'est surtout les lobbies, les puissantes lobbies qui imposent les politiques qui sont bien pour eux. Et donc ces lobbies, ils ont réussi à encourager des émeutes. Mais comment est-ce qu'on juge donc si une taxe est bien ou mauvaise pour les pauvres? Bon, le plus simple, c'est de regarder quel pourcentage d'un bien est-ce que ça compose dans le budget de chaque décile. Disons, ici, nous avons les déciles. C'est les 10% les plus pauvres d'un pays. En fait, ici, c'est l'Afrique du Sud. Et ici, c'est les plus riches. Alors, les plus riches, ils consomment plus de tous les biens, évidemment. Mais ici, ce n'est pas la consommation au niveau absolu, c'est le pourcentage du budget. Donc, les riches, ils utilisent 3,5% de leur budget. Et les pauvres, moins qu'un pour cent. C'est un peu comme le parfum. Si on regardait le riz, ça serait le contraire. Les pauvres utilisent une grande partie pour les nourritures de base et les pauvres, petits. Donc, c'est simple. Si on veut un système fiscal qui est progressif, on taxe les biens avec une participation grande des riches. Si on veut quelque chose de régressif, on taxe les nourritures de base, par exemple, ou on taxe tout, comme les IVA, taxe valeur ajoutée. Mais ici, on voit clairement, en fait, qu'en Afrique du Sud, c'est progressif. Ici, c'est Kenya. C'est un peu le même. Alors, les gens disent que oui, mais les pauvres, ils prennent l'autobus. C'est vrai. Ici, c'est les pourcentages de consommation de revenus. Et vous voyez que les plus riches, ils n'utilisent pas les bus beaucoup. Mais les pauvres, beaucoup. En fait, principalement les déciles 4, 5, parce que les plus pauvres, ils sont peut-être à la campagne. Ils utilisent moins les transports routiers. Donc, on peut ajouter cela, parce que le prix de transport, ça dépend jusqu'à un certain point du prix de diesel. Mais le prix de diesel, ce n'est pas le composant le plus important. Il faut aussi payer le chauffeur et le bus. Donc, on a calculé tout cela. Ici, c'est donc les coûts de transport total avec l'essence et la participation du diesel dans le coût des transports publics. Et donc, c'est toujours, vous voyez, c'est toujours progressif. Il y a même de l'essence dans ma chemise, disons, parce que tous les biens, il faut les transporter. Et donc, nous avons fait, en fait, un de mes chapitres dans ce livre, il y a une matrice. Input-output. Et donc, on considère tous les flux dans l'économie. Et ça, toujours, on trouve que c'est progressif. Mais ça varie d'un pays à l'autre. Ici, c'est Mexique, en fait. Là, c'est le transport public. Et là, c'est essence. Et la somme des deux, c'est plus ou moins neutre. Au Mexique. Donc, ça varie d'un pays à l'autre. Mais en Inde, on a trouvé que c'était très progressif. En Inde, on a étudié beaucoup de différentes fuels. Là, c'est le total pour le transport. Parce qu'en Inde, en fait, si vous avez été au Delhi, par exemple, même le métro, c'est quelque chose pour les classes aisées. Si on entre dans le métro, c'est une température agréable, il y a tout le monde a un portefeuille. C'est pas du tout comme dans les rues. Les pauvres en Inde, ils n'ont pas du tout de transport. Ils doivent marcher ou rester où ils sont. C'est simple. Donc, bon, j'ai une grande quantité de différentes études de cas. Ici, par exemple, il y a un fuel ici, le charbon. Non, c'est pas le charbon, c'est le kérosène. Si vous voyez, c'est une couleur qu'on se voit un peu mal là. C'est bleu, très clair. La courbe est en effet. Montre que c'est en effet c'est régressif. Donc une taxe sur la kérosène, c'est régressif. La kérosène est utilisée principalement par les pauvres qui l'utilisent pour la cuisine, pour allumer. Et donc, taxer cela, c'est régressif. C'est ce que je veux dire, qu'il n'y a pas une loi qui dit que c'est toujours progressif ni toujours régressif, mais l'argument qu'on écoute, c'est souvent que c'est toujours régressif. Et cela, ce n'est pas du tout vrai. En Suède, bon, d'ailleurs, je vais vous expliquer, il y a beaucoup de petits problèmes de détails. J'ai deux courbes pour la Suède ici. C'est le même, c'est les plus riches, les plus pauvres. Et non, là et là. Et ici, c'est les parts. Ici, ils sont calculés sur le revenu. Revenu, c'est une variable, c'est la réponse à la question « Quel est votre revenu ?» Vous pouvez aller vous demander « Quel est votre revenu ?»« Quel est votre ?» Oui, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Il y a des retraités qui disent « Ah, bon, j'ai une pension, je ne sais pas si ça compte comme revenu. Est-ce que c'est… » Bon, il y a des jeunes, ils prêtent de l'argent. Ils étudient la médecine, ils vont être riches dans l'avenir, ou bien aisés, moi, au moins. Mais ils n'ont pas. Le revenu maintenant est zéro, parce qu'ils vivent des prêts. Alors ça devient compliqué. Il y a des riches qui ne veulent pas dire combien, parce qu'ils pensent, ils soupçonnent que la personne qui pose des questions, en réalité, vient de l'État et qui va imposer les taxes après. Donc, il y a plein de difficultés méthodologiques avec la question « Quel est votre revenu ?» C'est tout simplement un fait. Même en Suède, disons, qui est un pays où presque tout est registré déjà, chiffré et transparent, et dans beaucoup de pays, c'est très, très difficile de poser cette question. Donc, il y a une alternative. Parce que ces chiffres, ils viennent des household budget studies, des études de budget des ménages. On a les dépenses sur l'essence, mais aussi sur la nourriture, sur les vêtements. On a toutes les dépenses, en principe. Donc, on peut tout sommer et on peut dire que la somme de tous les ce qu'on achète dans une année, c'est une sorte de mesure de revenu. C'est expenditure. Et il y a même les théories pour motiver cette approche. On peut dire que les gens, ils ont, avec une marge d'incertitude, mais ils ont quand même une vision sur leur vie. Ils voient que quand ils sont jeunes, ils prêtent de l'argent, ils investissent dans une éducation, ils auront plus d'argent après, ils pourront, bon, ils épargnent pour la retraite. Il y a toute une vision, donc on peut consommer parfois quelques années plus de ce qu'on gagne, quand on est étudiant, par exemple. Donc c'est une réflexion, ce qu'on dépense, ce qu'on achète, c'est une réflexion du niveau de revenu sur toute la vie espéré. Donc ici, ça motive qu'on utilise ça. Mais vous voyez, ça donne des résultats assez différents. Et juger avec cette mesure-là, taxe, essence, en Suède, paraît plutôt progressif, et ici, ça paraît plutôt régressif. De toute façon, l'effet est assez faible, mais quand même, c'est une curiosité méthodologique, on peut dire. D'ailleurs, voilà, c'est pas un bon diagramme, mais c'est juste, ça démontre, en fait, un autre aspect qui est très important, c'est que si on met une taxe sur l'essence, il y a des revenus pour l'État. La discussion jusqu'à maintenant, je n'en ai pas parlé de ce qu'on fait avec ces revenus. Supposons qu'on l'utilise. Il y a toujours les cyniques qui disent non, le ministre des Finances va tout voler. Peut-être que ça arrive parfois, quelque part, mais normalement, on pourrait aussi penser que les corrupts, ils volent de toute façon un peu, mais que cela est un constant et que ça ne change pas avec le taxe essence, disons. On peut dire qu'on augmente le taxe essence au lieu d'une autre taxe ou qu'on diminue des autres taxes. Ici, j'ai fait... j'ai utilisé dans un modèle tout simplement les revenus du taxe essence ici pour réduire les taxes sur les taxes, l'IVA, sur la nourriture. Donc ça c'est bien pour les pauvres. Et cela implique que si on le voit comme une réforme fiscale, que ça devient fortement progressif. Ici, j'ai des études, en fait, pour une groupe de pays. Et là, il y a la France. Et ça paraît, en fait, légèrement régressif. Mais les effets, en général, en Europe, sont très, très légers. Ils sont plus ou moins... Le taxe est plus ou moins proportionnel en Europe. Ici, on utilise « expenditure » au lieu de « revenue ». On voit que même en France, là, c'est tout à fait proportionnel. Donc, en Europe, pour résumer, en Europe, on trouve en général que les taxes sont proportionnelles. Dans les pays en voie de développement, ils sont en général fortement progressifs. Il y a là... une dizaine de pays en voie de développement. D'ailleurs, c'est étrange, en fait, qu'il y a des gens qui... Il semble que la seule fois qu'ils parlent de la progressivité et de la régressivité, c'est quand ils vont arrêter des taxes sur le carbone. Si on regarde les systèmes fiscaux que nous avons dans l'Occident, en Europe et aux États-Unis, les derniers 20-30 ans, on les a fait beaucoup plus régressifs. Ils ne semblent pas avoir une grande demande pour la progressivité. Si on veut faire des systèmes, des taxes progressifs, c'est tout à fait possible. Tout simplement, par exemple, les taxes progressives, c'est-à-dire que le taux de taxe augmente avec les taxes. Nous avions ça en Suède dans les années 70 et ça a été aboli. Ça devient difficile. Ça devient difficile d'avoir dans un seul pays d'abord, parce que les gens avec des revenus élevés, ils se disent, mais je pourrais aller vivre dans le pays à côté, le pays voisin, et j'aurai bien moins de revenus et je peux continuer mes affaires de toute façon dans mon propre pays. Donc on risque de perdre beaucoup de gens de hauts revenus, ce qui ne serait pas bien pour le budget du pays. En plus, il y a des autres difficultés. Les taxes progressives, ils incitent beaucoup à de planification fiscale. Ça devient une espèce d'incitation à des manœuvres fiscaux qui visent à réduire les taxes et qui ne sont pas très productifs. D'ailleurs, ouais, voilà ici, on peut voir, pour résumer un peu, j'ai trouvé que les pays les plus riches, les États-Unis par exemple, là c'est régressif et les pays les plus pauvres c'est très progressif. Évidemment, cela c'est lié au fait que dans les pays les plus riches, même les pauvres ont des voitures. C'est vraiment pas très compliqué d'ailleurs. Ce qui est un petit peu compliqué, c'est comment mesurer. Parce que jusqu'à maintenant, j'ai eu des diagrammes, juste des diagrammes comme ça. Donc, j'ai voulu avoir une mesure de l'inégalité. Et donc, ce que j'ai utilisé, ce que j'ai trouvé ici, c'est quelque chose qui s'appelle le index suite. Je vais le montrer ici. C'est un peu comme l'index Gini de la pauvreté, c'est un peu pareil. Si donc ici on a le revenu, le pourcentage du revenu, ici on a toute la population, ici on a le premier 10%, et ici on a participation dans les paiements fiscaux. Ici, donc, les gens qui ont le 10% plus de revenus, ils payent un peu plus que 10% de toutes les taxes. Et donc, ici, on a un système fiscal qui est progressif. Il est plus progressif, le plus convexe est cette courbe. Il est régressif s'il est sur l'autre côté. Et la mesure suite, c'est en fait c'est cette area divisée par toute l'area du tableau. Donc, voilà, c'est une formule tout à fait simple ici, et des différents pays. Aux États-Unis, on trouve en général. En fait, toutes les premières études ont été faites aux États-Unis. Peut-être que c'est un peu à cause de ça que tout le monde croit que les taxes essence sont régressives, parce que les premiers articles publiés sur le sujet, ils démontraient que c'était régressif, mais c'était aux États-Unis. Et aux États-Unis, comme je disais, les pauvres ont des voitures. Ils ont même des voitures, des vieilles voitures, achetées des années 70-80, qui utilisent beaucoup d'essence. Ils sont obligés d'aller très loin pour leur travail, souvent. Et donc, il n'y a pas beaucoup de transport public aux États-Unis. Donc, il y a un tas de raisons pour lesquelles une taxe d'essence peut être nocif, dommage pour les pauvres aux États-Unis. Mais évidemment, c'est une grande erreur de penser que ça doit être le même partout. En Europe, on a trouvé que c'est plutôt proportionnel. Nous avons moins de distance, plus de transport public. Et dans les pays pauvres, les pauvres n'ont pas du tout de voiture. Même dans les États-Unis, si on utilise le revenu pour des buts progressifs, on peut facilement faire des paquets de réformes fiscales qui sont totalement progressifs, si on veut. Mais en fait, les dernières 30 ans, on a fait chaque année plus régressif le système. Donc, je ne crois pas qu'on le ferait, mais on pourrait le faire facilement. Donc voilà. S'il y a une question ou deux...